Vous écoutez, on lit pour vous.
Le cube Rubik et Donjons et Dragons, tout sauf vieux jeu. Un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 20 février 2024 dans Le Devoir. Le cube Rubik et le jeu de table Donjons et Dragons célèbrent cette année leurs 50 ans. Si tout les sépare en apparence, les deux jeux inventés en 1974 ont connu des parcours semblables. Début triomphant, adolescence difficile, puis renaissance sous de nouvelles formes au 21e siècle. Avec l'appui du web et des réseaux sociaux, ils sont aujourd'hui plus populaires que jamais. Regard croisé sur l'évolution de ces deux jeux qui n'ont pas pris une ride. Se casser la tête à toute vitesse. Le casse-tête le plus célèbre au monde et peut-être le plus complexe avec ses 43 trillions, 43 avec 18 zéros, de possibilités de mouvement, est né du cerveau de l'architecte hongrois Erno Rubik. D'abord imaginé comme un défi pour ses étudiants de l'École supérieure hongroise des arts appliqués, le cube a été breveté et commercialisé à la fin des années 1970 sous le nom de Magic Cube. La société Ideal Toy, à qui on doit aussi le moins transcendant Ker Plank, qui a donné le nom de son créateur avant de le lancer sur le marché américain. Après des débuts prometteurs encouragés par le bouche-à-oreille, le cube Rubik atteint une popularité phénoménale. On estime qu'entre 1980 et 1983, 200 millions de casse-têtes ont trouvé preneur sur le globe. Si la ferveur s'est essoufflée par la suite, le total de cubes vendus depuis sa création oscille aujourd'hui entre 350 et 400 millions. Le cube Rubik connaît une véritable deuxième vie depuis la création en 2004 de la World Cube Association, WCA, organisme qui gère les compétitions de résolution du cube, aussi appelé Speed Cubing. En effet, si Erno Rubik a mis un mois avant de résoudre son invention pour la première fois, alors que la majorité des gens n'y arriveront jamais, la renaissance du cube Rubik est devenue une affaire de vitesse. Avis aux intéressés. Le record de résolution du cube classique est actuellement détenu par l'Américain Max Park, qui l'a réussi en 3,13 secondes. Des performances impressionnantes comme celle-là, c'est ce qui fait parler et c'est une belle vitrine pour notre sport, soutient Alexandre Ondet, délégué de la WCA au Québec et coordinateur des événements de Speed Cubing Canada au Québec. Mais c'est loin d'être le seul attrait du speed cubing, explique celui dont le record personnel est de 9,84 secondes. C'est d'abord une compétition avec soi-même. Le temps, c'est une indication qui est facile à comprendre, mais ce n'est pas tout. On peut trouver des motifs de satisfaction autres, par exemple quand on fait de belles résolutions, sans pause, et qu'on réussit à bien cuber. Le speed cubing est aussi une occasion d'avoir des interactions sociales, a découvert Florence Divernois. Avec son fils, disciple passionné du cube, elle a fondé il y a 6 mois la petite entreprise Speed Cubing Québec, qui organise chaque mois des jams où se rassemblent de jeunes joueurs qui tentent de résoudre ensemble ces données casse-tête. La communauté virtuelle est très active. Les gens s'échangent des trucs et des vidéos pour s'améliorer, mais physiquement, c'est une activité isolée. C'est la raison pour laquelle on veut les rassembler entre amis, explique la mère de famille. L'activité attire notamment nombre d'enfants aux talents étonnants qui sont capables à un très jeune âge de résoudre un cube en quelques secondes. Le speed cubing demande en effet des aptitudes hors normes, notamment au chapitre de mémorisation spatiale et du sens de l'anticipation. On a beaucoup de joueurs avec des profils neuroatypiques ou surdoués, souligne Florence Divernois. Ce sont souvent des jeunes très timides, réservés, pas très sociaux. Au début, ils sont un peu gênés parce qu'ils ne sont pas habitués à faire cette activité en groupe, mais la session suivante, on les voit évoluer et ils commencent à s'ouvrir. Selon Alexandre Ondet, c'est en grande partie cette communauté qui se crée autour du cube qui explique sa durabilité. Le cube Rubik fait partie de cette catégorie très sélecte de jeux vraiment intemporels grâce à son concept simple à comprendre, mais aussi très difficile à résoudre. On peut aller en profondeur, mais c'est accessible à tous. Tant que la communauté autour est là, le cube a de beaux jours devant lui, dit-il. Des sous-sols au grand écran. Au moment même où le cube Rubik fait son chemin dans toutes les cours d'école, Donjons et Dragons émergeaient dans les sous-sols d'Amérique du Nord. Inspiré de l'univers de Tolkien, ce jeu d'aventure permet d'incarner elfes, nécromanciens, clercs et autres paladins a lui aussi connu ses premières heures de gloire au début des années 1980. À un point tel que sa popularité a déclenché une panique morale chez certains parents américains, visiblement inquiets que leur progéniture explore un monde fantastique rempli de démons et de succubes, un lancer de dés à la fois. L'anecdote, racontée dans la populaire série Stranger Things, résume bien l'aura de mystère qui entourait ce jeu de table inventé par les Américains Gary Gygax et Dave Arneson. Il y a un truc spécial qui se passe quand tu joues pour la première fois et que tu comprends que tu peux faire absolument n'importe quoi, que tout est possible, explique avec émerveillement Pierre-Louis Renaud, animateur d'EtuGame, une chaîne YouTube consacrée aux jeux de table et aux jeux de rôle. Presque 20 ans après sa première aventure, celui qui est aussi comédien poursuit toujours des quêtes aux côtés des amis qu'il s'est fait en jouant à D&D au secondaire. Et il est loin d'être le seul. Le nombre de jeux vendus est en hausse constante depuis une décennie. Il a grimpé de 33% en 2020 seulement à la faveur de la pandémie. Cette même année, les revenus de Wizards of the Coast, compagnie qui gère l'univers Donjons et Dragons, ont totalisé 816 millions de dollars américains. Hollywood a flairé la bonne affaire avec la sortie en 2023 de la méga-production Dungeons and Dragons Honor Among Thieves. Même le cinéma québécois y a mis du sien avec Farador. Plusieurs connaisseurs attribuent cet engouement sans précédent à l'arrivée en 2014 d'une nouvelle version du jeu, la 5e, qui a ouvert la porte à une simplification des règles et donné une plus grande place à l'imagination des joueurs. Donjons et Dragons a monstrueusement changé à travers les époques, explique Tommy Chantavinout, copropriétaire de deux pubs ludiques Randolph. Beaucoup de détails ont changé en matière d'expérience de jeu, mais la façon des gens d'y jouer a aussi beaucoup évolué. Avant, c'était très tactique, très stratégique. Aujourd'hui, c'est davantage tourné vers l'expérience humaine, si on peut dire. L'évolution de ton personnage, la création d'une belle histoire. Le jeu et ses dérivés sont eux-mêmes devenus des objets de consommation culturelle. On peut non seulement jouer à Donjons et Dragons, mais aussi regarder ou écouter d'autres gens y jouer. Critical Role, qui compte 2,2 millions d'abonnés sur YouTube, permet par exemple de suivre sur plusieurs épisodes de vastes quêtes narrées par des acteurs professionnels. Le concept a fait des émules sur la planète Balado, notamment au Québec avec les aventuriers de Roche, Papier, Dragon et de l'équipe d'EtuGame. C'est une belle époque pour aimer cet univers parce qu'il y a tellement de façons pour y accéder. Les jeux, les films, les balados, les groupes Facebook qui y sont consacrés, constate Tommy Chantavinout. C'était Le Cube Rubik et Donjons et Dragons, tout sauf vieux jeux. Un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 20 février 2024 dans Le Devoir.
Le tabou de la laïcité fiscale, un texte de Maxime Pedneau-Jobin, paru le 15 février 2024 dans la presse. L'émission Enquête de Radio-Canada mettait récemment en lumière le fait que si les organisations religieuses manquent de plus en plus de fidèles, elles ne manquent pas d'argent. À elles seules, les congrégations qui ont fait l'objet du reportage d'enquête auraient pour près $1 milliard d'actifs. Les généreuses exemptions fiscales dont jouissent les organisations religieuses sont une des sources de leur richesse. Luc Grenon, de l'Université de Sherbrooke, un des rares chercheurs à s'intéresser à la question, avait calculé en 2012 que, rien qu'au fédéral, c'est $1 milliard par année qui échappait ainsi aux contribuables. Plus récemment, en 2019, Le Devoir rapportait que les exemptions de taxes foncières et scolaires privaient les municipalités de 162,2 millions par an et le gouvernement du Québec de 20,1 millions. Enquête a également mis en lumière des zones grises qui coûtent très cher aux contribuables. Le séminaire de Québec gère 201 clubs de chasse et pêche et loue des terres à des parcs d'éoliennes. Tous ces revenus sont libres d'impôts. Autre exemple, en provenance du Devoir cette fois, l'Oratoire Saint-Joseph reçoit chaque année 2 millions de visiteurs qui lui rapportent $18 millions de revenus. Le site est évalué à $63,5 millions. Il est, lui aussi, exempté de taxes foncières. Un dernier cas. Dans une cause récente opposant la municipalité de Boisbriand à une école assidique, les juges ont donné raison à la communauté religieuse et exempté son école de payer des taxes foncières, ce qui prive la municipalité de $382 000 par année. L'école en question n'enseigne rien d'autre que des préceptes religieux assidiques et, pour ce faire, elle sépare garçons et filles. Ces exemptions datent d'une époque où les congrégations religieuses offraient des services publics essentiels comme la santé et l'éducation. Aujourd'hui, l'État a pris la relève et les églises sont assez peu présentes dans le domaine des services sociaux ou même dans celui de la charité, et ce, de leur propre aveu. En effet, au Canada, pour obtenir le statut d'organisme de bienfaisance enregistré, celui qui leur permet d'offrir des reçus fiscaux, les organismes religieux n'ont qu'une seule obligation: favoriser l'avancement de la religion. En 2012, toujours selon Luc Grenon, une organisation religieuse de bienfaisance, sur deux, déclarait qu'elle n'allouait aucune ressource à autre chose qu'à la promotion de la religion. Pas un sou pour la bienfaisance, tout pour la religion, tout. Au final, selon Luc Grenon, à peine 15% de tous les fonds recueillis par les organisations religieuses grâce à des dons de bienfaisance sont consacrés à autre chose que la pastorale. On peut donc estimer que le gouvernement fédéral se prive de 850 millions par année et que tous les contribuables, même les athées et les agnostiques, financent les organisations religieuses et les valeurs qu'elles transmettent. C'est, à l'évidence, une contradiction flagrante des principes de laïcité auxquels tant le Canada que le Québec prétendent adhérer. Il est temps de lever le tabou qui entoure ces exemptions et de faire le ménage dans tout cela. Comme Enquête l'a démontré, les communautés religieuses ne pêchent pas par excès de transparence, c'est le moins qu'on puisse dire. Les liens administratifs et financiers entre les communautés religieuses, les diocèses ou encore les paroisses sont loin d'être évidents. Alors que des communautés sont riches, des paroisses n'ont pas un sou. Il n'est pas facile de répondre à la simple question qui est responsable de quoi? Selon l'avocat Pierre Boivin, par diverses opérations administratives, certaines congrégations religieuses tenteraient même de mettre leurs biens à l'abri des réclamations de victimes d'abus. Une large part de ce que possèdent aujourd'hui les églises a été acquise grâce aux avantages fiscaux consentis par l'État et grâce aux dons et aux efforts des fidèles. Contrairement à ce qu'affirment les porte-paroles des églises, elles ne relèvent pas uniquement de la sphère privée, ce sont aussi des biens communs. Si le gouvernement veut mettre fin aux exemptions, ce qu'il devrait faire, il doit agir avec prudence. Des paroisses laissent déjà des églises à l'abandon, affirmant que le patrimoine n'est pas leur affaire. Il ne faudrait pas précipiter les fermetures et perdre encore de beaux temples. De plus, le gouvernement pourrait rendre possibles les utilisations mixtes, religieuses et laïques, des installations, ce qui faciliterait les projets de reconversion. Finalement, il pourrait aussi déterminer que pour quelques années, la totalité des sommes obtenues par l'abolition des exemptions sera réinvestie dans la sauvegarde du patrimoine religieux ou encore dans la reconversion des églises. Il ferait ainsi d'une pierre deux coups, il respecterait ses propres principes de laïcité, les religions se financeraient elles-mêmes et il protégerait des bâtiments et des œuvres d'art qui sont au cœur de notre histoire et de nos paysages. C'était Le tabou de la laïcité fiscale, un texte de Maxime Pedneau-Jobin, paru le 15 février 2024 dans la presse.
Robert Marien, Quand chaque seconde compte. Un texte commandité par Cœur Plus AVC, paru le 10 février 2024 dans la presse. Il y a de ces journées qui nous marquent à jamais. Pour le comédien et chanteur Robert Marien, la date du 5 octobre 2021 restera à jamais ancrée dans sa mémoire. C'est le jour où son cœur a cessé de battre, pendant 9 minutes. Ce jour-là, rien ne laissait pourtant présager un arrêt cardiaque. Il n'y a pas eu de signe avant-coureur. Je jouais au hockey avec des amis à l'aréna, comme je le fais tous les mardis après-midi depuis une vingtaine d'années. Tout allait bien. Il restait une demi-heure de jeu. J'ai voulu aller chercher la rondelle dans le coin, et tout à coup, ça a fait 3, 2, 1, merci, bonsoir. Je me suis écroulé sur la glace, raconte l'artiste, qui ne conserve heureusement aucune séquelle de tout ça aujourd'hui. Il est question d'arrêt cardiaque. Lorsque le cœur cesse soudainement de battre, il n'est plus en mesure de pomper du sang vers le cerveau et d'autres organes vitaux. La réanimation cardio-respiratoire, RCR, et l'utilisation d'un défibrillateur externe automatisé, DEA, peuvent doubler les chances de survie d'une personne en arrêt cardiaque. Sur le coup, ses coéquipiers ont cru à une mauvaise blague jusqu'à ce que l'un d'eux prenne conscience de la gravité de la situation. À ce moment-là, l'un des gars a entrepris un massage cardiaque. Entre-temps, l'entraîneur d'une autre équipe est venu en renfort. Puis, le hasard a fait en sorte qu'un parent, ambulancier de profession, venait chercher son fils à l'aréna. C'est lui qui est allé chercher le DEA, raconte Robert Marien. La RCR en 3 étapes faciles. 1. Composez le 911 et demandez en criant qu'on vous apporte un DEA. 2. Appuyez vite et fort au milieu du thorax de la personne. 3. Utilisez le DEA dès que possible. J'ai eu une chaîne de sauveteurs extraordinaire. Les gars ont commencé la RCR rapidement et après une décharge de DEA, le pouls est revenu, se souvient Robert Marien. Selon de nouvelles données de Cœur Plus AVC, environ 60 000 arrêts cardiaques surviennent à l'extérieur de l'hôpital chaque année au pays, soit un toutes les 9 minutes. Un arrêt cardiaque peut arriver à tout le monde et survenir à tout moment. l'importance d'un meilleur accès au DEA. Reconnaissant la chance qu'il a eue d'avoir été en présence d'un DEA, Robert Marien milite aujourd'hui pour un plus grand nombre de ces appareils dans les lieux publics très fréquentés ainsi que dans les communautés rurales et isolées. Il devrait y avoir des DEA dans tous les lieux publics, y compris les tours de bureaux et les immeubles de condos. Les DEA devraient être enregistrés et accessibles à tout le monde, puisqu'un arrêt cardiaque peut toucher n'importe qui et survenir à n'importe quel moment, mentionne Robert Marien, qui ajoute « C'est simple. Les DEA, c'est comme les extincteurs. Vous ne souhaitez pas vous en servir, mais vous êtes content d'en avoir un quand il y a une urgence, et ça sauve des vies. » La pratique immédiate de la RCR permet de maintenir la circulation du sang pour préserver la fonction du cerveau et d'autres organes vitaux, tandis que le DEA envoie une décharge au cœur pour l'aider à recommencer à battre. Pour chaque minute écoulée sans l'application de ces mesures vitales, les chances de survie diminuent considérablement. Des mesures simples et vitales. À toutes les personnes qui craignent de ne pas savoir comment utiliser un DEA, Robert Marien répond que même un enfant de 10 ans serait capable de le faire. Vous n'avez pas besoin d'être médecin ou ambulancier. Le DEA dit quoi faire et peut déterminer si la personne a besoin de recevoir un choc ou non. Il est impossible de nuire à la personne. Vous ne pouvez qu'aider, souligne l'artiste. La réflexion doit aussi se faire quant à l'importance de suivre une formation en RCR. Ce n'est pas un cours de médecine. Tout le monde devrait savoir comment pratiquer la RCR. C'est une compétence facile à apprendre qui permet de sauver des vies. Avec ces connaissances, tout le monde peut devenir un héros. Cœur plus AVC est le chef de file en matière de réanimation au pays et offre de nombreuses formations en RCR pour le grand public et pour les professionnels de la santé. C'était Robert Marien, Quand chaque seconde compte, un texte commandité par Cœur plus AVC, paru le 10 février 2024 dans La Presse.
Le mois de janvier 2024 a été plus chaud que jamais et le Québec n'y a pas échappé. Un texte de Sarah Boumeda, paru le 9 février 2024 dans Le Devoir. Si vous avez trouvé le début de l'année plutôt doux, les données vous donnent raison. Après une année de chaleur historique à travers la planète, la tendance se maintient. Le mois de janvier 2024 est le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré, selon des données de l'Observatoire européen Copernicus. Le Québec est une des régions où la chaleur s'est fait le plus sentir. La Terre a enregistré une température moyenne de 13,14 degrés Celsius en janvier 2024, soit 0,7 degrés Celsius de plus que la moyenne des températures de 1991 à 2020, selon Copernicus. C'est 0,12 degrés Celsius de plus que le dernier record établi pour ce mois, qui date de 2020. Par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est une différence de 1,66 degrés Celsius, soit un écart qui dépasse la limite de 1,5 degrés Celsius établi dans l'accord de Paris négocié en 2015. Avec ce nouveau record, la planète vient donc de passer de février 2023 à janvier 2024, avec une anomalie moyenne à 1,52 degrés Celsius, donc au-delà de cette limite symbolique. Pour rappel, en 2023, la température mondiale était en moyenne 1,48 degrés Celsius, au-delà des normes pré-industrielles. Des températures aux extrêmes au Canada. Copernicus note toutefois que certaines régions du monde ont enregistré des anomalies beaucoup plus importantes, notamment l'est du Canada. En effet, la région entourant la baie d'Hudson, en particulier le nord du Québec, a vu ses températures grimper jusqu'à près de 7 degrés Celsius au-dessus des normes de la période 1981-2010. À Montréal, le mois dernier, la température était environ 4 degrés au-dessus de la normale pour la même période de référence. À l'inverse, à l'ouest du pays, les provinces des Prairies ont enregistré un mois de janvier beaucoup plus froid que la normale. Toutefois, Copernicus souligne que cette région a aussi vu énormément de variations de température. Après un début du mois qui a battu des records de froid, une vague de température plus élevée que la normale a suivi. Les océans plus chauds que jamais. Même si le phénomène El Niño s'affaiblit dans certaines zones du Pacifique, les températures des surfaces marines demeurent anormalement élevées. En janvier 2024, la température moyenne de la surface des océans était de 20,97 degrés Celsius. Il s'agit de la seconde plus haute valeur jamais enregistrée, seulement 0,01 degré Celsius en dessous du précédent record établi en août 2023. Sur le plan de la température quotidienne, toutefois, les océans ont battu, début février, leur précédent record. Le 1er février, la température moyenne atteignait 21,05 degrés Celsius, dépassant la plus haute valeur jamais répertoriée du 24 août 2023, qui était de 21,02 degrés Celsius. La température des eaux est un facteur important du climat mondial. De telles hausses que l'on remarquait déjà en 2023 peuvent engendrer des phénomènes climatiques extrêmes tels que des canicules, des feux de forêt, des inondations ou encore des sécheresses. C'était « Le mois de janvier 2024 a été plus chaud que jamais et le Québec n'y a pas échappé ». Un texte de Sarah Boumeda, paru le 9 février 2024 dans Le Devoir.